sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Monsieur le Président, merci infiniment de m'avoir appris qu'un instant pouvait avoir une durée, ce que, en bon aristotélicien, jusqu'à présent, j'ignorais. Donc, Monsieur le Président, messieurs les ambassadeurs, je ne peux nommer ici toutes les personnalités tant il y en a, chers amis, chers confrères et néanmoins amis. Avant de réfléchir sur le pouvoir, donc c'est la tâche qui m'a été confiée sur le pouvoir en islam, il faut savoir de quel mot on se sert pour le penser. Pouvoir est en effet un mot français et l'islam a commencé sa carrière en arabe, langue qui continue à jouer un rôle décisif dans la religion islamique, même si ses locuteurs ne constituent qu'environ 10% de ceux qui la pratiquent. Dans son dictionnaire allemand-arabe, qui passe pour être le meilleur dictionnaire de thèmes arabes en quelque langue que ce soit, Götz Schlegel donne au mot « macht » pas moins de 15 équivalents en arabe moderne. Je vous en fais grâce, rassurez-vous. Ces mots, sachez-le, couvrent en tout cas un large éventail de sens, depuis la capacité d'agir jusqu'à la force, l'influence, la compétence judiciaire, l'autorité, la domination, en passant par la puissance, la dynamis, que les philosophes opposent à l'acte. Pour couper court, tout en restant au niveau de la langue, il est une formule qui résume la conception islamique du pouvoir. Il n'est de force et de puissance qu'en Dieu. En un sens, je pourrais arrêter là mon exposé. Je résisterai cependant à la tentation, mais non sans m'excuser de cette formule, pour justifier le caractère essentiellement théologique de ce que je vais dire. Il n'y a de force qu'en Dieu se trouve dans le Coran. Sourate 18, verset 39. La formule complète que je viens de citer, donc il n'est de force et de puissance qu'en Dieu, se trouve mise dans la bouche de Mahomet dans une déclaration attribuée au prophète, recueilli par Bukhari, un des deux traditionnistes les plus autorisés. Elle est devenue une de ces formules stéréotypées, rituelles, pour lesquelles l'arabe a forgé un terme, la hawqala, comme on parle de la basmala, pour dire au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, ou de la tasliya, pour dire juste après le nom de l'envoyé de Dieu, que Dieu prie sur lui et lui donne la perfection. Il en est d'ailleurs de ces formules stéréotypées, un peu comme notre Dieu merci, que peut prononcer machinalement le plus recuit des athées, qui ne songe nullement à rendre grâce à Dieu, mais qui veut dire simplement « ouf ». En effet, ce qui compte dans telle formule est le contexte qui dépasse le sens immédiat. Par exemple, « Allahu Akbar » a littéralement le même contenu que le « Deus Semper Maior » d'Ignace de Loyola, mais les circonstances effectives de son utilisation lui donnent le sens de « à l'attaque ». Dans la formule qui accorde à Dieu la possession exclusive du pouvoir, la connotation est celle du désespoir, de la constatation de l'échec des forces humaines à maîtriser les événements et à écarter les catastrophes. Mais, ce qui va me permettre de poursuivre mon exposé, la formule est ambiguë, car la préposition qui y est employée peut signifier « en Dieu », mais aussi « par le moyen de Dieu ». Donc, il n'est de force et de puissance qu'en Dieu ou que par Dieu. Eh bien, en un sens, tout le problème est là. Comment peut-il y avoir dans le monde créé un autre pouvoir que celui de Dieu ? Et au cas où cet autre pouvoir existerait, ou plus positivement, puisqu'il faut bien qu'il existe, comment s'articule-t-il sur le pouvoir de Dieu ? Il ne peut être question en islam d'un pouvoir qui concurrencerait celui de Dieu, comme dans le dualisme manichéen qui admet, selon la formule rabbinique, deux pouvoirs aux cieux. C'est là qu'il faut introduire de la distinction entre les prétendus trois monothéismes. Certes, ils affirment unanimement qu'il n'est qu'un seul Dieu, mais ils se distinguent en ce que chacun a sa façon bien à lui de répondre à la question « le seul à quoi faire ?» ou, si l'on préfère, de situer l'unicité de Dieu et l'activité par laquelle il la manifeste et qu'il est seul à exercer. Pour la religion d'Israël, l'unicité de Dieu n'est affirmée qu'une seule fois dans la Torah, comme le fait remarquer Maïmonide. Et c'est dans le résumé de sa confession de foi, le fameux schéma, « Écoute Israël », etc. Dieu est pour Israël l'unique objet de son amour, d'un terme qui désigne moins un sentiment que l'attachement du serviteur à son maître. L'unicité du destinataire du service est affirmée dans les 10 commandements, Exode 20. Mais pour les prophètes, Dieu est perçu comme unique davantage en tant qu'il est un sujet agissant que comme l'objet d'un culte exclusif d'adoration. Le Dieu d'Israël est au fond l'unique réel acteur de l'histoire et d'une histoire qui est celle de la fidélité de Dieu à son alliance. L'idée est puissamment orchestrée par le Deutéronome Isaïe, où Dieu dit « C'est moi qui fais tout ». Ce faire est une action de salut. Chez le prophète Osée, l'un des plus anciens prophètes dont nous ayons conservé les prédications, Dieu se présente déjà comme l'unique sauveur. Et le second Isaïe reprend l'idée, peut-être d'ailleurs, comme une citation consciente de son prédécesseur Osée. Pour le christianisme, dans la mesure où celui-ci se distingue du judaïsme ou le prolonge, Dieu est, comme chez les prophètes que je viens de citer, le seul auteur du salut. Son pouvoir est une capacité de sauver. Dans le christianisme, le salut culmine dans le statut de fils adoptif donné par Dieu à l'homme. Et c'est dans ce contexte que la formule « tout-puissant » apparaît dans le credo par deux fois. Elle le fait dans le syntagme « Père tout-puissant ». Il n'y a pas d'affirmation d'une toute-puissance qui serait séparée de la paternité divine. Le Dieu chrétien est tout-puissant dans la mesure où il est Père. Une certaine réduction des attributs de Dieu à la toute-puissance est impliquée chez certains penseurs que l'on appelle communément nominalistes du Moyen-Âge tardif, chez lesquels elle permet de très intéressants paradoxes logiques. Ce que donne l'isolation de la toute-puissance par rapport à la paternité, on peut en avoir une idée quand on pense à l'usage que faisait Hitler du terme « le tout-puissant » (der Allmächtige). Ses propos de table montrent qu'il entendait par là, selon un biologisme rudimentaire d'inspiration darwinienne, l'ensemble des mécanismes naturels qui assure la supériorité d'un peuple, non pas élu, mais sélectionné, au sens fort de ce terme. Pour l'islam, parmi les 99 plus beaux noms de Dieu qu'énumère la tradition et que le musulman pieux égrène sur son chapelet, une quinzaine le présente comme puissant. Cette qualité de la puissance est d'autant plus importante qu'elle donne au monothéisme coranique son caractère distinctif. Dieu est unique dans la mesure où il est le seul détenteur du pouvoir. La preuve de l'authenticité d'un Dieu, c'est justement son pouvoir. Selon le Coran, si les faux dieux avaient un pouvoir, ce serait une preuve en leur faveur. Or, ces faux dieux sont impuissants. La question n'est donc pas celle de la possession de n'importe quelle caractéristique, la bonté par exemple, ou la sagesse, ou comme on voudra, mais bien celle de la capacité d'agir. Dieu est caractérisé dans le Coran pas moins de 6 fois par le syntagme « l'unique, le dominateur », les deux mots étant accolés. Le rejet du polythéisme par l'islam est d'abord le refus de partager le pouvoir. L'un des arguments contre l'existence de plusieurs dieux consiste à dire que, si c'était le cas, s'il y en avait plusieurs, ils s'empêcheraient l'un l'autre d'agir. L'idée est dans le Coran et elle est reprise par les théologiens. J'entends par théologiens les gens de ce que l'on appelle le kalam, une sorte d'apologétique si vous préférez. Elle est même partagée par le philosophe Averroès. D'où la perplexité amusante d'un musulman de base devant une religion polythéiste dans laquelle les dieux s'entendent bien. Par exemple, parce qu'ils se sont répartis le monde à l'intérieur de la fratrie, comme dans le mythe grec du Dios d'Asmos, tel que le rapporte Homère, à Zeus le ciel, à Hadès le monde souterrain, à Poséidon la mer et la terre en indivision. Pour le Coran, s'il y avait plusieurs dieux, il ne manquerait pas de chercher à détrôner l'unique. On perçoit cette surprise chez un personnage qui s'appelait Ibn Fadlan. Ce personnage, en 1921, fut envoyé par le calife Al-Muqtadir en ambassade vers le nord auprès des Turcs, des Russes, des Bulgares et des Khazars. Il s'étonne devant le panthéon des Turcs, qui était à l'époque encore polythéiste. Ceux-ci reconnaissent 12 dieux qui se répartissent diverses saisons, régions ou phénomènes cosmiques. Au-dessus de ceux-ci est un dieu suprême qui règne au ciel. Et notre ambassadeur observe, je cite, « Le Seigneur qui est au ciel est le plus grand, mais il est d'accord avec les autres, et chacun d'eux approuve ce que fait son associé. » Ce texte naïf est d'autant plus intéressant que le mot qu'il emploie, « charik », est justement celui que le Coran utilise pour désigner ce dont il ne veut à aucun prix, puisque associer à Dieu d'autres êtres, qui seraient nécessairement des créatures, est le seul péché que Dieu ne pardonnera jamais. Ainsi donc, tout pouvoir est à Dieu. Mais peut-on dire en islam, comme chez saint Paul, dans un texte bien connu de l'Épître aux Romains, que tout pouvoir provient de Dieu? Cela impliquerait que Dieu délègue son pouvoir. Or, le problème de la délégation d'un pouvoir divin est épineux de par sa nature même. J'en examinerai 4 aspects. D'une part, le problème se pose d'abord au niveau le plus élevé, celui de l'acte créateur en général. Le Coran décrit la création dans des termes qui ressemblent assez au début de la Genèse. Mais il ne connaît pas le repos du 7e jour. La Bible le mentionne pour expliquer le commandement sur le repos du Shabbat. Le Coran, lui, prend à la lettre le repos et refuse d'attribuer à Dieu la fatigue que le travail créateur entraînerait. Or, la Bible parle moins d'une fatigue et d'un repos divin que du fait inverse. Dieu ne cherche pas à fatiguer la création et la laisse reposer en elle-même. Il laisse les créatures se gouverner selon ce qu'il faut bien appeler, même si le mot n'est pas dans la Bible et n'apparaît en hébreu que vers le début du IIIe siècle de notre ère, ce qu'il faut bien appeler leur nature. À défaut du mot, l'idée me semble présente dans la formule 10 fois répétée dans le premier récit de la création, selon laquelle les êtres vivants, plantes et animaux, sont créés selon leur espèce. Le dieu coranique a du mal à lâcher les baskets de ses créatures. D'où peut-être la prédilection de l'islam pour une cosmologie de la discontinuité, pour un atomisme généralisé dans lequel les choses doivent être recréées par Dieu à chaque instant, et pour laquelle les régularités observables ne reposent pas sur une nature des choses qui leur serait intrinsèque, mais sur une habitude divine. L'exemple le plus net d'une telle vision du monde est la théologie apologétique, ce que j'ai appelé tout à l'heure Kalam, d'un théologien, si l'on veut, qui s'appelait Al-Ash'ari, lequel a longtemps tenu le haut du pavé depuis le Xe siècle et, à vrai dire, quasiment jusqu'à nos jours. Sur son œuvre et sa pensée, je ne puis que recommander l'admirable synthèse due à Daniel J. Marais, notre confrère des inscriptions. Deuxièmement, le problème de la délégation du pouvoir se pose au niveau de l'homme en général. Comment articuler la toute-puissance divine sur la liberté humaine ? Cette dernière étant comprise d'ailleurs moins comme puissance d'agir que comme responsabilité et comme imputabilité, permettant donc les récompenses et les punitions. Historiquement parlant, la théologie islamique prend comme point de départ la question de la toute-puissance divine et de son action sur les activités humaines. Deux écoles se sont opposées sur cette question, dites Qadarite et Jabarite. Les deux mots arabes sur lesquels sont formés les noms de ces deux écoles opposées sont d'ailleurs, de manière assez amusante, synonymes et veulent dire tous les deux « pouvoir ». Mais l'un désigne le pouvoir par lequel Dieu contraint sa créature à agir comme il le veut, alors que l'autre désigne le pouvoir qu'a l'homme de décider librement de son comportement. Et c'est la seconde école, celle qui dépouillait l'homme de sa capacité d'initiative, qui a longtemps dominé. Le Coran contient des versets qui vont dans les deux directions. Le hadith, les déclarations attribuées au prophète, accentuent la tendance à voir dans Dieu celui qui contraint l'homme à agir, même contre son gré. L'idée d'une délégation du pouvoir divin à ses créatures n'est pourtant pas totalement absente. Ainsi, le mystique Hassan al-Basri, mort en 728, se serait exprimé ainsi, si l'on peut suivre la traduction de Louis Massignon. Allah a créé les serviteurs, c'est-à-dire les hommes, c'est une manière commune en arabe de désigner les hommes, et leur a confié leurs propres affaires. Bon. L'arabe dit bien ça, hein. Massignon ne se trompait pas souvent quand il s'agissait d'arabe. Cependant, cette idée qui, en termes techniques, est traduite par l'un des sens du mot tafouid, qui a beaucoup d'autres sens, est généralement récusée par l'école dominante, ce pourquoi elle est restée exceptionnelle. Il me faut faire ici, avec votre permission, Monsieur le Président, une digression, merci, une digression pour signaler un contresens fréquent sur le sens du mot calife dans le Coran. Il n'y signifie nullement remplaçant, vicaire, lieutenant ou que sais-je encore, mais bien successeur. Pas une seule fois n'apparaît dans le Coran le syntagme calife de Dieu. Pas une seule fois, Dieu ne dit qu'il va établir l'homme comme son calife sur terre. De façon amusante, les pronoms possessifs, absents du texte, sont ajoutés par les traducteurs, comme par exemple dans la traduction, par ailleurs tout à fait excellente, de Denise Masson, dont je me sers volontiers. Qu'en est-il donc ? Eh bien, on dit dans le vocabulaire bédouin qu'une tribu est le calife d'une autre lorsqu'elle nomadise sur une région qui avait été occupée par une tribu précédente et que celle-ci a abandonnée volontairement ou parce qu'elle en a été chassée. Dans un passage du Coran, sourate 2, verset 30, Dieu annonce non pas qu'il va se donner un représentant sur terre, mais qu'il va installer sur la terre l'homme qu'il vient de créer, Adam, et qui y succédera aux anges, ce qui implique peut-être qu'il va reloger les anges au ciel. La réaction des anges est compréhensible. Ils craignent de devoir céder la place à un amateur qui va tout bousiller. À l'inverse, il arrive que Dieu évoque la possibilité d'une succession retournée où les anges remplaceraient, et le verbe employé est celui dont la racine est celle de calife, où les anges remplaceraient les hommes sur la terre. Cette menace n'est pas mise à exécution. D'autres passages s'adressent aux hommes que Dieu a fait des successeurs sur la terre ou à qui il promet de les rendre tels, anticipant la conquête. Et ailleurs, enfin, Dieu dit à David qu'il l'a rendu successeur sur la terre, en l'occurrence, successeur de Saül. Il se peut très bien que l'homme ait été placé sur terre pour y exercer une fonction d'administrateur. Seulement, d'une part, le Coran ne dit rien de la fonction qu'Adam, nouvellement créé, est censé exercer là où il a été placé, à la différence de la Bible qui explique qu'Adam devra travailler, garder et travailler le jardin d'Éden où il est placé. Et puis par ailleurs, ce n'est pas parce que je nomme quelqu'un à une fonction que je lui donne mes pouvoirs, que je lui délègue les pouvoirs que je reste seul à exercer. Ceci dit, il est de fait que le contresens, car il me semble que c'est un contresens, et je ne suis loin d'être le seul à penser cela, que ce contresens a une histoire, voire ses lettres de noblesse. Il rend en effet possible un humanisme coranique, ce pourquoi il est repris à satiété par les apologètes de l'islam. Ainsi, pour ne citer qu'un esprit de qualité, Mohammad Iqbal, le penseur indien mort en 1936, qui est un peu le père spirituel du Pakistan, qui traduit le verset 2.28 par « I am about to place in my stead on earth ». In my stead. Bon, ce qui n'est pas dans l'arabe. Ce contresens, s'il a ses lettres de noblesse, a aussi ses stigmates de honte, puisque les califes de l'histoire, ceux que nous appelons les califes, enfin les califes omeyyades puis abbassides, en ont profité pour s'attribuer des titres qui suggèrent qu'ils sont les représentants de Dieu, voire l'ombre de Dieu sur terre. Troisième point, y a-t-il une délégation par Dieu de son pouvoir, non plus à la créature en général, ou à l'homme en général, mais bien à des personnes déterminées? Si cette délégation est un fait, alors elle constitue un puissant principe de légitimation. S'opposer aux décisions du délégué serait s'opposer à celles de Dieu lui-même, entreprise aussi folle que coupable. Une formule générale se lit dans le Coran. Allah donne à ses envoyés pouvoir sur qui il veut, et Allah est puissant sur toute chose. On notera la différence intéressante entre le pouvoir des hommes qui ne s'exerce que sur leurs compagnons d'humanité, Dieu donne pouvoir sur qui il veut, et le pouvoir de Dieu, d'autre part, qui porte sur la totalité de ce qui est. Selon un autre verset, le messager a de l'autorité, l'arabe c'est roi, auprès de celui qui a le trône, c'est-à-dire auprès de Dieu. Le pouvoir en question ne dispense pas de l'obéissance à la loi divine. Il s'agit au contraire de recevoir cette loi, je cite, « avec puissance ». Qu'est-ce que cela veut dire ? Je ne peux pas m'empêcher d'y voir une trace lointaine de l'impératif hébraïque « razak », « sois fort pour accomplir la loi ». Parmi tous les récits sur les prophètes qui reviennent à plusieurs reprises dans le Coran, le seul exemple concret d'un pouvoir est celui de Moïse, à propos duquel revient de façon lancinante la formule, il y en a plus d'une demi-douzaine d'occurrences, non exactement une demi-douzaine, le pouvoir évident. Moïse était doté d'un pouvoir évident. Adjectif intéressant et important puisqu'il qualifie également le livre lui-même, enfin, le Coran lui-même, censé être le livre clair, Al-Kitab al-Mubin. Alors pourquoi Moïse ? Pourquoi lui seul, les autres prophètes n'étant pas qualifiés de la sorte ? Eh bien, Moïse est le personnage le plus cité dans le Coran, plus qu'Abraham, et bien plus que Jésus, enfin que Aïssa plus exactement. Mahomet sentait peut-être que le parallélisme entre lui et Moïse était plus net qu'avec toute autre figure prophétique de la Bible hébraïque ou du Nouveau Testament. Dans le récit biblique, d'ailleurs largement fictif, il s'agissait de conquérir une terre promise, d'en éliminer les occupants et de s'y installer définitivement. Le Coran ne contient qu'une seule citation référencée de l'Ancien Testament. Et c'est le verset 29 du psaume 37, « Les justes posséderont la terre ». Pour la communauté à laquelle s'adressait la prédication de Mahomet, il s'agira d'établir un pouvoir capable de contrôler les producteurs et de vivre de leur travail. De la même façon que les Grecs, à l'époque hellénistique, s'étaient emparés à peu près des mêmes régions et étaient installés en patron du Moyen-Orient. Quatrième et dernier point de cette partie, qui est l'avant-dernière, rassurez-vous, seul Mahomet a osé revendiquer une association au pouvoir divin. Dans le Coran, une formule revient de façon lancinante, surtout dans les versets descendus à Médine. Pourquoi à Médine ? Parce que dans cette ville, Mahomet, d'abord appelé comme une sorte de podestat pour concilier deux tribus en conflit, en était venu à exercer déjà, de fait, un pouvoir indissolublement politique, militaire, législatif et religieux. Et c'est de cette époque, très probablement, que date la formule « obéissez à Dieu et aux prophètes ». On lit cette égalité « obéir aux prophètes, c'est obéir à Dieu ». Dieu et le prophète, c'est un autre passage du Coran que je paraphrase ainsi, ont plus d'autorité que quiconque et personne ne saurait faire appel de leurs décisions. Un autre passage, toujours médinois, dit « Quiconque désobéit à Dieu et à son envoyé méritera l'enfer ». Il n'est d'ailleurs pas impossible que les mentions qui ajoutent à Dieu son envoyé aient été elles-mêmes ajoutées à un stade de la rédaction du Coran qui reste à déterminer, car il arrive qu'elles troublent le rythme du verset. Le verset devient un peu, du point de vue de la prosodie, boiteux par l'ajout de ces mots-là. Les miracles par lesquels Mahomet authentifie sa mission sont avant tout des signes de puissance. Et cela se voit dans le terme technique qui les désigne paradoxalement, « mu'ajizat », qui mot à mot signifie incapacité. Car le pouvoir que Dieu donne au seul prophète lui permet de faire des choses que ses adversaires sont empêchés de réaliser. Donc il s'agit des incapacités des adversaires qui essaieraient de rivaliser avec le prophète. Ces pouvoirs se concrétisent éventuellement par des destructions. À la différence du Christ des évangiles, rendant la vue aux aveugles et le mouvement aux paralytiques, aucun des prodiges attribués à Mahomet ne consiste en une guérison. Au contraire, sa biographie rapporte qu'il aurait miraculeusement provoqué la mort de ses adversaires en suscitant ou en réactivant des blessures ou des maladies. Mon dernier point, le grand problème de la politique tout au long de l'histoire des régions islamisées sera d'articuler le pouvoir de l'homme, en l'occurrence le pouvoir des dirigeants, et le pouvoir divin. Le Coran ordonne d'obéir à ceux qui ont l'autorité. Le mot que j'ai traduit ici par autorité, amr, a deux sens, que distinguent deux formes pour son pluriel, soit affaire, soit commandement. Commander, c'est aussi être aux affaires, si je puis me permettre ce petit jeu de mots sur le français seul. Ce mot a permis également toute une méditation sur l'impératif créateur de Dieu, méditation qui frôle les réflexions sur le logos du judaïsme hellénisé de Philon d'Alexandrie et du christianisme johannique. On appelle traditionnellement ce verset le verset des émirs, puisqu'un émir est celui qui possède le amr. Un émir est celui à qui on doit obéissance. Les meilleurs auteurs l'ont bien vu. Ainsi, lorsque Ben Kalish Ezab, qui justement est émir, donne au chef de sa cavalerie, Youssouf Ben Moulfrit, l'ordre de se lancer à la poursuite de Bab el-Er, le militaire obéit sans hésitation ni murmure. L'ennui est que l'identité précise des émirs, de ceux qui ont l'autorité, reste ouverte. Le verset fut donc interprété en divers sens. Chaque groupe, militaire, politique, religieux, voire mystique, et le chef de chacun de ces groupes y voyant une légitimation de son propre pouvoir. Après les émirs de la famille des Bouyides, qui revendiquaient, c'est des Persans qui revendiquaient ce terme, et peut-être pour marquer leur différence, les généraux turcs, qui leur ont succédé quasiment pour remplacer effectivement le calife, dont le pouvoir se limitait à la frappe de la monnaie et à sa mention dans le prêche du vendredi, ces généraux turcs ont préféré le titre de sultan, formule abrégée dérivée de détenteur du pouvoir, celui qui a le sultan, le pouvoir. Titre qui a été décerné aux environs de l'an 1000. Dans les sociétés islamiques traditionnelles dont l'histoire nous raconte les problèmes, le pouvoir fut l'objet d'un compromis instable entre trois de ses détenteurs. Les politiques, d'ailleurs souvent des militaires qui possèdent la force matérielle. Les juristes, détenteurs de l'autorité religieuse. Le peuple, chargé d'une autre forme du amr, la pression sociale, à travers ce que l'on appelle en termes techniques la commanderie du bien et l'interdiction du mal. Commandement, qui invite à intervenir soit par la force brachiale, soit par la parole, soit à tout le moins par la prière, pour s'opposer à toute pratique contraire aux bonnes mœurs, telles qu'elles sont définies par la loi et la coutume. On a aussi trois pôles, et peut-être quatre, si l'on ajoute le pouvoir charismatique des chefs des confréries soufis. Le pouvoir fut donc l'objet de compromis instables. Jamais les hommes de religion n'ont exercé le pouvoir politique, avant que Khomeini, dans l'Iran d'après la révolution de 1979, n'impose la velayat-e faqih, le gouvernement du légiste. Auparavant, les détenteurs du pouvoir réel, pouvoir avant tout militaire, honoraient les juristes, faisaient mine de leur demander conseil en théorie, avant de se régler dans la pratique sur des maximes tirées de miroirs des princes qui tenaient plus de la Perse ancienne que du Coran. En échange, les juristes conféraient aux princes le minimum de légitimité qui leur permettait de se faire accepter par la piété populaire. De leur côté, les confréries alternaient entre l'excitation du bon peuple contre les gouvernants et la quiétude, quand elles ne jouaient pas elles-mêmes un rôle politique, comme par exemple une confrérie qui s'appelle Naqshbandiya, qui a beaucoup aidé Tamerlan en ses débuts. Une bonne partie de l'histoire islamique se laisse lire selon cette grille d'un équilibre instable de négociations entre plusieurs sortes de pouvoirs dont aucun n'arrive à l'emporter de façon définitive. En conclusion, je suis très conscient, Monsieur le Président, de ne pas avoir concentré le tir sur le pouvoir politique, comme l'impliquait clairement l'exposé introductif que vous avez fait. Je suis très conscient d'avoir fait porter le plus clair de mes propos sur des questions relevant de la théologie. Je sollicite cependant l'indulgence du jury en faisant valoir que cette accentuation du théologique et avec elle le porte-à-faux qu'elle provoque dans le domaine du pouvoir politique font partie du problème lui-même. Je vous remercie de votre attention.